21 septembre 2018, l'été qui nous quitte avec de la pluie et du temps quand même assez chaud, mais demain, c'est l'arrivée de l'automne et ça se sentira. Vous avez préparé quelques titres d'automne pour vous mettre déjà dans l'ambiance. Hélène Denis qui vous accompagne. Bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Et bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Ça va?
Oui, oui, vous-même.
Oui, oui, ça va bien, merci. Ça prend un imperméable ce matin parce que...
Ou un parapluie.
Oui, un des deux. Ou les deux, idéalement.
Parce si, c'est parce que je porte des lunettes. Moi, si c'était pas de lunettes, j'aurais jamais de parapluie. Parce que l'eau dans les lunettes, hein, Maurice,
ça
fait friser.
Vous aimez ça, vous faire arroser, puis
ça fait friser.
Complètement trempé?
Ça me fait friser. Mm-hmm. C'est la seule raison.
Bon. Maurice qui aime bien ça, avoir l'esprit de contradiction.
Non, côté naturel, j'aime beaucoup.
Bon, oui, vous l'êtes d'ailleurs ce matin, côté naturel.
C'est la pluie.
Oui, ça vous fait bien. Ah, vous êtes fait prendre?
Non, j'avais mon parapluie.
OK. Dur à suivre, ça, Maurice. Allez-y.
Oh, oui, très dur. Donc, 21 septembre, aujourd'hui, c'est écrit, c'est la Saint-Mathieu. On salue tous les Mathieu sur le plancher et sur cette terre.
Y a-t-il une Saint-Maurice?
Sûrement. Je présenterai du moins, il y a une rivière. Il y a la rivière. Il y a la rivière Saint-Maurice.
Oui, il y a la rivière.
Il y a une rivière, je suis bien content.
Ah, ouais. Et il y a l'île Sainte-Hélène.
Aussi. Toi, tu sais, une rivière, tout se rejoint. Entre les deux, il y a le fleuve.
Oui.
Donc, le 21 septembre, aujourd'hui,
moi
non plus. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quand même relativement sérieux. Pensons à toutes ces personnes.
Relativement.
Très sérieux,
un peu
même.
Trop,
ouais. Le 21 septembre aussi, c'est la journée de la qualité de l'air. J'en ai beaucoup aujourd'hui. C'est la journée internationale de la bibliodiversité. Et c'est la journée internationale de la paix. On se la souhaite. Quelques événements. En 1327, avec son amant Roger Mortimer au château de Berkeley, Isabelle fait assassiner son mari, le roi Édouard II. En 1792, à Paris, sur la proposition de Jean-Marie Collot d'Herbois, la Convention abolit la monarchie et institue la République. 1892, c'est l'inauguration du premier service de tramway à Montréal. 1922, elle n'existe plus, mais quand même, CKAC entre en onde, devenant la première station radiophonique de langue française au monde, quand même, c'est pas rien, créée par la presse. Et CKAC, à l'époque, voulait dire « Canada Kilo Cycle America Canada ». Et voilà. 1929, le Canada adhère à la Cour internationale de justice de La Haye. En 1963, c'est l'inauguration, dis-je, de la Place des Arts ici à Montréal, qui même à l'époque avait fait la controverse. Certains l'appelaient la Place des Autres. Et voilà, une histoire de snobisme. En 1971, les cigarettiers canadiens admettent qu'ils vont cesser la réclame à la radio et à la télévision le 1er janvier suivant. En 1995, toujours la cigarette, la Cour suprême du Canada juge que la loi interdisant la publicité du tabac est contraire à la liberté d'expression. 2003, la sonde spatiale Galileo est envoyée s'écraser sur Jupiter. Elle avait été envoyée en 1989. Elle est arrivée sur Jupiter en 1995. 2009, le président déchu de Norbourg, Vincent Lacroix, plaide coupable à 200 accusations criminelles qui pesaient sur lui. Quelques naissances. L'explorateur canadien-français Louis Joliette naît en 1645. C'est le premier explorateur célèbre né ici au Canada. Il découvrira le Mississippi. Le romancier anglais Herbert George Wells naît en 1866. On le connaît plus comme H.G. Wells qui a écrit « La guerre des mondes ». Le dessinateur et cinéaste américain Chuck Jones, qui est créateur de Bugs Bunny et autres dessins animés. Ah ben tiens, c'était la fête à Leonard Cohen aujourd'hui. Donc, feu. Évidemment.
Il aurait eu quel âge?
Né en 1934. Vous êtes bon dans le calcul mental, vous?
84 ans.
Oui. Donc,
non, c'est pas vieux.
Plus vieux que ça, non? Juste 84? 66 plus 18?
Non, c'est correct.
C'est ça,
les calculs sont bons, mais...
Un coup d'on. En tout cas, paix à lui.
Oui.
L'écrivain américain Stephen King, lui, naît en 1947 et l'acteur américain en 1950, Bill Murray. Et aussi un décès, l'ingénieur suédois Neil Bolin, qui en 1959, chez Volvo, a conçu la ceinture de sécurité aux trois points d'appui. Donc, on le remercie pour cette ceinture de sécurité. Ça fait le tour de ce 21 septembre. Pardon.
Merci, Maurice. Alors, ils sont à la une de la presse aujourd'hui, les quatre chefs de parti, Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée, Manon Massé. Le dernier débat des chefs de la campagne électorale a donné lieu à des échanges décousus et à quelques malaises, mais fera-t-il pencher la balance? Le gros titre, c'est « Échevelé ». L'analyse de Denis Lessard, pas de gagnant, mais un perdant. Et le perdant, selon lui, c'est Jean-François Lisée. Yves Boisvert, sa chronique s'intitule « Lisée s'égare, Legault surnage » et pose chic réseaux sociaux. Être mannequin en 2018, le monde change, le métier aussi. Je vous lis une partie donc de l'analyse de Denis Lessard. Pas évident de désigner un vainqueur parmi les chefs qui croisaient le fer dans le dernier débat télévisé hier soir. En revanche, le perdant est évident. Jean-François Lisée n'a pu répéter sa bonne performance des deux premiers échanges. Un acte de contrition bien senti de François Legault après ses dérapages sur la question de l'immigration, une déclaration de clôture livrée sans lire un texte où il a mis l'accent sur la qualité de son équipe. Le chef de la coalition Avenir Québec pourra peut-être freiner l'hémorragie qui a frappé son parti depuis une semaine. Philippe Couillard, parfois sur la défensive, a livré une performance prévisible, semblant plutôt à son aise dans son costume de premier ministre, mais la gestion de son gouvernement en santé et en éducation a été souvent et durement attaquée par Jean-François Lisée et François Legault. Manon Massé de Québec solidaire aura, elle, carrément surpris, expliquant dans une langue claire, sans effet de toge, les propositions de son parti. Mais c'est peut-être le modérateur Pierre Bruno qui aura été, bien malgré lui, la vedette des échanges. Intervenant fréquemment, coupant souvent court aux arguments qui s'élevaient de part et d'autre, il a cassé le rythme, transformé en duel désordonné un débat qui était pourtant, sur papier, étroitement formaté. Déploiement en Irak, les soldats se font interdire les boissons énergisantes. Fini les boissons énergisantes pour les soldats canadiens déployés en Irak, qualifiés de risque potentiel pour les opérations et de soucis au regard de la sécurité et des effets sur la santé. La consommation de ces boissons a été interdite à tout le personnel militaire et civil affecté à l'opération Impact sous peine de mesures disciplinaires. La consommation de boissons énergisantes par les soldats est un problème flagrant, affirme le chercheur Dave Blackburn, spécialiste de la recherche en santé mentale chez les militaires à l'Université du Québec en Outaouais. Il a lui-même constaté son ampleur, alors qu'il était déployé en Afghanistan au sein de l'armée, à titre de clinicien en santé mentale en 2006. C'est un problème qui touche particulièrement les jeunes recrues et les soldats de rang inférieur, comme les caporaux et les caporaux chefs. Comme c'est difficile encore aujourd'hui d'aller raconter ces problèmes à son adjudant, les gens prennent ces boissons en se disant qu'au moins ils arrivent à faire leur tâche correctement, mais c'est une béquille qui ne règle pas la source du problème, dit le chercheur Dave Blackburn. Selon une étude, il y a certains soldats d'Afghanistan qui ingèrent jusqu'à 2000 mg de caféine par jour avec ces boissons, soit l'équivalent de 10 cafés, format moyen chez Tim Hortons. Un premier centre canadien consacré aux maladies orphelines, elle porte des noms comme dyskératose congénitale, maladie de Crabbe ou syndrome Crash. Elle touche moins de une personne sur 2000 et ceux qui en sont atteints manquent souvent de soins, d'informations et même d'un diagnostic clair. Les maladies orphelines sont par définition des maladies pour lesquelles il n'existe pas de thérapie efficace, mais elles recevront finalement de l'attention. L'UQAM crée le tout premier centre de recherche du Canada qui leur est entièrement consacré. Baptisé Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines, Fondation Courtois, il comptera une quarantaine de chercheurs. Les activités entourant la tenue du Marathon de Montréal, qui se tient dimanche, entraîneront des entraves importantes à la circulation qui iront en s'amplifiant à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche dans les rues de la métropole. Les grands chantiers de l'échangeur Turcot et du pont Champlain entraîneront quant à eux des fermetures majeures dans l'axe de l'autoroute 15 à partir de l'île des Sœurs jusqu'à l'autoroute des Caries. Marathon aujourd'hui et demain, aujourd'hui donc les fermetures de rue pour la tenue des premières courses dans le cadre du marathon seront limitées entre 11h30 et 13h15 dans un périmètre limité par le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine à partir du quartier des spectacles jusqu'à la rue de la Visitation. Demain, pour la tenue des courses de 5 à 10 km, le même secteur sera bouclé dès 7h15, en plus d'être étendu vers l'est jusqu'aux environs de la station de métro Papineau. Le secteur du quartier des spectacles sera fermé à la circulation dès 5h du matin. Et dimanche, au matin du marathon, le boulevard René-Lévesque sera fermé dès 3h30 du matin. Le parcours passera d'abord par le Vieux-Montréal et le sud-ouest de Montréal, où les rues seront fermées à compter de 6h45, avant de remonter vers le plateau Mont-Royal jusqu'au boulevard Saint-Joseph et le Jardin botanique, où la circulation sera interrompue vers 7h15 avant de revenir à son point de départ. Tout au long de ce parcours, seulement quelques rues, Saint-Rémy, Atwater, Desseigneurs, Sherbrooke, permettront de traverser d'un côté à l'autre des rues fermées. Fusillade, trois personnes ont été tuées et trois autres ont été blessées hier à la suite d'une nouvelle fusillade aux États-Unis dans une zone industrielle de l'État du Maryland, commise par une jeune femme qui s'est suicidée et dont les motivations restaient inconnues. Nous avons trois blessés, trois morts, dont deux sont décédés sur place et l'autre à l'hôpital. Et l'auteur des coups de feu est aussi morte à l'hôpital. C'est une femme agissant seule, âgée de 26 ans. Les fusillades qui endeuillent régulièrement l'Amérique sont très rarement perpétrées par des femmes. Moins de 5 % des tireurs sont des femmes selon une étude du FBI qui portait sur 160 événements de ce type entre 2000 et 2013. La dernière en date remonte au 4 avril quand une militante de la cause végétalienne avait blessé trois personnes en ouvrant le feu au siège de YouTube à San Bruno, en Californie, pour se venger de la fermeture par la plateforme de plusieurs de ses chaînes vidéo. Et paraît-il que cette fusillade au Maryland, je l'ai lu ailleurs dans le Journal de Montréal, que c'est une fusillade dans son lieu de travail. Donc, cette femme a tué des gens qui faisaient partie de ses collègues de travail. Poste Canada, un arbitre a rendu une décision dans un différend de longue date sur l'équité salariale à Poste Canada qui accorde aux facteurs ruraux une augmentation salariale considérable. Selon un porte-parole de la Société de la Couronne, un examen préliminaire de la décision indique que les travailleurs postaux en banlieue et en région rurale pourraient voir leur salaire augmenter de 25 % et profiter de gains au chapitre des avantages sociaux. En excluant les avantages sociaux de ce calcul, l'augmentation du salaire annuel pourrait s'élever à 13 000 $ et sera rétroactive à 2016, a indiqué Cathy Kennedy du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. « Nous sommes très satisfaits de l'entente », a-t-elle déclaré. « Et pour terminer, une entente de principe est également intervenue à Radio-Canada. Les comités de négociation de CBC Radio-Canada et du Syndicat des communications de Radio-Canada en ont fait l'annonce au terme d'un blitz intensif amorcé le 5 septembre dernier. Les représentants du diffuseur public et du syndicat affirment que l'entente répond aux besoins exprimés par les employés et par l'organisation.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié. La chanson que tu me chantais. Qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi, tu m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas. Les amants désunis.
Juliette Gréco, Les feuilles mortes.
Quelle belle chanson. Alors, à la une du Devoir de ce 21 septembre, Sir Paul l'Enchanteur, si vous étiez au Centre Bell hier, je vous envie. C'est un Paul McCartney ravi, célébrant le succès inespéré d'Egypt Station, son premier album à bondir au sommet du palmarès Billboard depuis Tug of War en 82, qui a triomphé jeudi soir au Centre Bell, trois jours après le tout aussi triomphal début de la tournée Freshen Up au Centre Vidéotron de Québec. Et c'est Sylvain Cormier qui était sur place, le chanceux, et qui donne son compte-rendu sur les plateformes numériques du Devoir. Débat des chefs, Legault se pose en défenseur des valeurs. Le château Beauce est menacé de démolition. Monde international, Corée, au pluriel, la mise en scène atteint des sommets. La chronique de José Blanchette, Vers solitaire, Vers V-E-R-T-S, une voix inaudible dans la campagne. Et culture, les louanges, le chanteur et le citoyen. Le dernier débat des chefs de la campagne électorale a vu François Legault se poser en défenseur des valeurs de la majorité des Québécois au sortir d'une semaine difficile où le thème de l'immigration a ébranlé ses appuis. « Vous ne voulez pas défendre nos valeurs », a lancé le chef caquiste au premier ministre sortant lors du segment « Immigration » du débat organisé jeudi par TVA. Il a accusé Philippe Couillard d'empêcher l'Assemblée nationale de légiférer et de renforcer la laïcité de l'État québécois en interdisant le port de symboles religieux chez les personnes en position d'autorité, dont les policiers. « Pourquoi vous êtes contre la majorité des Québécois ?» lui a-t-il demandé. M. Couillard a répliqué que le chef du gouvernement a le devoir de protéger les droits fondamentaux des minorités sur le territoire québécois. Il a déploré du même souffle le mépris à peine voilé du chef caquiste à l'égard des personnes issues de la diversité. Au moment d'écrire ces lignes, vers 22 heures, le débat s'achevait tout juste. La formule du face-à-face a permis des échanges relevés entre des protagonistes qui avaient une dernière occasion de renverser les tendances dégagées par les sondages des derniers jours, qui montre que tout demeure possible à 10 jours du scrutin. La résidence construite en 1903 sera démolie pour faire place à un édifice de 4 étages destiné à héberger des personnes âgées. Le titre, le Château Beauce, est menacé de démolition. Pour faire place à un projet de résidence pour personnes âgées, la municipalité de Sainte-Marie-en-Beauce vient d'accorder à un promoteur local le droit de démolir au cœur de son centre-ville l'ancien Château Beauce, une imposante résidence centenaire dessinée par un des architectes québécois parmi les plus importants. C'est sûr que de voir ce bâtiment disparaître, ça fait de quoi à tout le monde, dit en entrevue au Devoir le maire Gaétan Vachon, qui est aussi préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Ça a de l'histoire, mais à un moment donné, il faut avancer, dit-il. Un avocat, Charles Breton de Meule, et un urbaniste, Guillaume Saint-Jean, ont alerté la ministre de la Culture et des Communications pour qu'elle annule la décision du conseil municipal de Sainte-Marie. Comment une démolition pareille peut-elle être autorisée, se demande Philippe Gobeil, professeur d'histoire et de théâtre qui habite la municipalité. Ça aurait pris une séance exceptionnelle du Conseil. Les citoyens n'ont pas été informés. C'est passé en douce entre d'autres affaires. La maison n'est pourtant pas banale. Dans un mémoire de l'Université Concordia signé par l'historienne de l'art Joanne Pérusse, on apprend que cette résidence d'inspiration néo-Tudor, rare en son genre hors des grands centres urbains, constitue une des premières, sinon la toute première réalisation de l'architecte Jean-Omer Marchand au Québec. Le budget publicitaire du Québec sur le web explose un peu plus haut, un peu plus loin. L'argent versé par le gouvernement du Québec pour ses campagnes publicitaires et son existence numérique aux géants du web a explosé dans la dernière année pour atteindre plus de 6 millions de dollars, a découvert Le Devoir. C'est une hausse de près de 120 % par rapport à l'année précédente. Notons qu'entre 2016 et 2017 et 2017 et 2018, l'Agence du revenu du Québec, le percepteur d'impôts de la province, a fait croître de 272 % ses dépenses en publicité auprès de Facebook, Google, LinkedIn, selon des données obtenues en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Cette augmentation a été de 81 % du côté du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et de 137 % pour le ministère québécois des Finances. Plusieurs organismes et ministères ont contribué plus que d'autres à cette tendance haussière. C'est le cas de la Société de l'alcool du Québec, dont les dépenses ont grimpé de 600 % en un an, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, plus 566 % ou encore du ministère de l'Éducation, plus 271 % entre autres. En augmentant sa présence sur les réseaux sociaux, l'État québécois donne l'impression qu'il est entré dans le nouveau monde, dit Laetitien, on l'appelle dans le troisième paragraphe, André Villemur, et dans le dernier paragraphe, René Villemur. Alors, je dirais Monsieur Villemur, mais donne-t-il le bon exemple? Nous sommes devant des décisions prises à courte vue. L'économie se porte mieux lorsque les achats sont faits localement. Dans ce cas, l'État contribue à la destruction de l'écosystème médiatique en soutenant la concurrence étrangère à ces médias locaux qui historiquement profitaient de cette manne publicitaire gouvernementale. Or, il y a un intérêt public à maintenir une presse locale forte, conclut-il. La prolifération vertigineuse des déchets autour du globe constitue une menace supplémentaire pour la santé de la population et l'environnement déjà fragilisé par le changement climatique, estime la Banque mondiale. Si aucune mesure n'est prise urgemment, le volume des déchets à l'échelle mondiale va s'accroître de 70 % d'ici 2050 pour représenter 3,4 milliards de tonnes contre 2,01 milliards en 2016. Bien que les pays riches ne comptent que 16 % de la population mondiale, ils produisent plus d'un tiers, 34 % des déchets de la planète. L'Asie de l'Est et la région Pacifique sont responsables de près d'un quart, 23 % du total des déchets. D'ici 2050, l'Afrique subsaharienne devrait plus que tripler le niveau de ses déchets et l'Asie du Sud plus que doubler.
Munitions. Ne vois-tu pas que si tu ne vois plus rien, c'est que tu te bats contre toi-même. Check. Oh,
Vous venez d'entendre Paul Carniello, la pièce « Toi, le Pacifique ».
En une du Journal de Montréal, face à face à TVA, Legault et Massé marquent des points. Le verdict de nos chroniqueurs, Legault, Dumont, Ravary, Trudeau, Robitaille et Bombardier. Le plus bel été que le Québec ait connu? Enlèvement à Sutton, un scénario de film et Domi suspendu à 5 matchs, pendant 5 matchs. Elle réussit à s'enfuir malgré la teneur, la terreur, dis-je bien. La courageuse adolescente qui a pu déjouer ses ravisseurs mercredi à Sutton se remettait tant bien que mal de ses émotions hier, tandis que les policiers poursuivaient la traque des suspects qui l'ont terrorisée. Les circonstances entourant l'enlèvement de la jeune fille de 12 ans étaient toujours nébuleuses hier. La résidence était en vente pour plus de 400... Alors, je vais lire un petit peu plus haut. On a d'abord pu établir que la victime a été ciblée en vue d'obtenir une rançon. L'adolescente a été enlevée en se rendant à l'école tôt en matinée. Elle a été poussée dans un véhicule pour être amenée prestement dans une maison située à proximité, attachée et les yeux bandés. La résidence, était en vente pour plus de 400 000 $ à la suite d'une reprise de finances de la banque CIBC, soit l'institution bancaire même pour laquelle travaille la mère de la jeune fille. Abandonnée dans la maison après le rapt, la jeune victime, a fait preuve d'un sang-froid impressionnant. Après des heures à se tortiller, elle est parvenue à se défaire de ses liens. Une fois sortie de la maison, elle s'est mise à courir à toutes jambes en direction de chez elle, environ 1,7 km de là. Ce n'est que lorsqu'elle a croisé une voiture de patrouille qu'elle a pu se sentir enfin en sécurité. La Sûreté du Québec est toujours à la recherche de 2 véhicules suspects liés à cette histoire. Il s'agit d'un Ford Econoline de couleur pâle conduit par les kidnappeurs. La SQ a aussi lancé un avis de recherche hier pour retrouver un Dodge Caravan de couleur pâle, sans doute gris, qui a été vu par des caméras de surveillance de commerce. Un avis de recherche d'un témoin important a aussi été lancé hier, soit un homme ayant été vu vers 9 heures, le matin de l'enlèvement, au Tim Hortons situé sur la rue Knowlton à Lac-Brome. Les kidnappeurs sont 2 hommes, l'un parlant français, l'autre anglais. Toute information peut être transmise confidentiellement au 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. L'épicerie à 75 $ évoquée par Couillard est irréaliste. Il a estimé hier faisable de nourrir une famille pour 75 $ par semaine. Il coûterait plus près de 190 $ par semaine pour nourrir correctement un adulte et 2 enfants selon le dispensaire diététique de Montréal, une facture 2,5 fois et demi plus élevée que celle de 75 $ évoquée par Philippe Couillard hier. Interrogé sur les ondes d'énergie pour savoir s'il était possible de nourrir un adulte et 2 ados pour moins de 75 $ par semaine, le premier ministre a estimé que c'était faisable et a ainsi suscité tout un débat sur les réseaux sociaux. « Je penserais que oui, par contre, les menus ne seront pas très variés et on sera pas mal sur le végétal », a affirmé le chef libéral. Il a précisé sa position à son entrée au débat des chefs à TVA hier soir. « La question, c'est « est-ce que c'est faisable ?»« Oui, c'est faisable, mais ce n'est pas souhaitable », a expliqué M. Couillard. Je pense que M. Couillard n'est pas dans la vraie vie. Il vit à un autre rythme, lui. 75 $ par semaine, ce n'est pas réaliste du tout, indique la nutritionniste Catherine Labelle du dispensaire diététique. Le Québec a-t-il connu son plus bel été? Chaleur de jour et de nuit, ensoleillement, beau week-end, les températures étaient parfois désertiques. À la veille de l'équinoxe d'automne, la question se pose, le Québec vient-il de connaître un de ses plus beaux étés des dernières décennies? Oui, il a fait beau et souvent le week-end, mais il a fait aussi très humide durant un nombre record de canicules. La notion d'été splendide n'est pas la même pour tous, mais si c'est une question de chaleur et d'ensoleillement, on se souviendra longtemps de l'été 2018. Le Québec a connu plusieurs records de chaleur avec des températures qui n'ont jamais été ressenties depuis plus de 60 ans. Régulièrement entre 2 et 3 degrés Celsius plus élevés que la normale selon les régions. D'après les données de l'Université McGill qui remontent jusqu'en 1871, l'été 2018 a été le plus chaud et humide depuis 147 ans à Montréal. Les météorologues ont leurs statistiques, mais les vendeurs de piscines ont les leurs aussi. Et selon eux, l'été 2018 passera à l'histoire. La GRC n'a toujours pas payé 420 nuitées à une aubergiste. Le corps policier s'est installé pendant 2 semaines chez elle durant le G7. Une propriétaire d'auberge de Saguenay peine à joindre les deux bouts parce que la Gendarmerie royale du Canada tarde à lui payer les 57 000 $ en nuitées qu'elle lui doit depuis la tenue du G7 il y a plus de 3 mois. C'est un gros montant pour une petite PME comme la mienne, lance au bout du fil Edith Bouliane, propriétaire de l'auberge Nature Le Sepal. « Je n'ai jamais de retour d'appel et j'envoie un email aux 2 jours depuis des semaines », dit Edith Bouliane, donc la propriétaire. L'affaire a rebondi à la Chambre des communes hier lors de la période de questions. Karine Trudel, députée du NPD, a accusé le gouvernement Trudeau d'avoir mal organisé son G7 au point où il peine à payer ses fournisseurs. Pris de court, la ministre libérale, responsable des contrats du fédéral, a répondu qu'elle allait examiner le dossier et revenir avec une réponse. La GRC n'a pas été en mesure d'offrir un commentaire hier. L'année 2018 pourrait être la plus meurtrière pour les piétons montréalais depuis 2013 après la mort cette semaine d'une 15e personne heurtée par un véhicule. Depuis janvier, 15 collisions mortelles impliquant un piéton ont été enregistrées par le service de police de la ville de Montréal, soit le même nombre que le bilan complet de l'année 2017. De 2006 à 2015, les collisions sur l'île de Montréal entraînant la mort de 66 % des piétons ont eu lieu sur une artère, selon le docteur et chercheur Patrick Morancy, associé à la Direction de la santé publique de Montréal et à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. La manière la plus efficace de réduire le risque de blessures de piétons sur des artères, c'est d'abord par des aménagements physiques, a affirmé M. Morancy. Pour y arriver, il faut réduire le nombre de véhicules, leur vitesse ou les possibilités de conflit avec les piétons. La Ville de Montréal dévoilera cet automne son plan d'action lié à l'approche Vision Zéro, à laquelle elle a souscrit en 2016. Recherche amateur de cannabis pour tester de nouvelles souches, bon salaire. Cette petite annonce d'une société de marketing de Toronto au Canada a provoqué plusieurs centaines de candidatures en quelques jours et un début de panique chez ses recruteurs. À 26 jours de la légalisation du cannabis récréatif, l'offre d'emploi à temps partiel de la société Allo, A-H-L-O-T, n'est pas passée inaperçue. Elle propose à 6 « amateurs » entre guillemets d'être payés 50 $ de l'heure avec un maximum de 12 heures par mois pour tester de nouvelles variétés de marijuana. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En quelques jours, Allo a reçu plus de 500 candidatures, ce qui a provoqué une légère panique au sein de la société, a-t-elle commenté sur Twitter.
Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. Je J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta. Ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de te voir partir, ma mignonne. Ici, y a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Mais tu me connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait bien de la peine. De te voir partir, ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé, ça avait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon body. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur ou ben si t'as pris le dessus? C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Anyway, j'suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
Toune d'automne par les Cowboys Fringants.
Et oui, l'automne qui arrive demain soir, je pense que c'est 20h54 ou 21h54, j'ai entendu ça à un autre poste à la radio publique. Parlant de Radio-Canada, une nouvelle intitulée « Des chiens d'assistance manitobains pour aider des joueurs des Broncos de Humboldt ». C'est sur le site de Radio-Canada que cette nouvelle a été publiée. Une entreprise manitobaine qui entraîne des chiens d'assistance pour venir en aide aux personnes souffrant de stress post-traumatique donne 3 chiens aux survivants de l'accident d'autobus des Broncos de Humboldt. Le joueur Grayson Cameron rencontrera son nouveau compagnon, Chase, pour la première fois aujourd'hui à Edmonton. Selon sa mère, le moment est approprié. Les survivants font face à beaucoup d'anxiété en ce moment. Nous savions que cela allait arriver. L'accident est survenu il y a 5 mois. Il commence tout juste à sortir de l'état de choc, affirme Pam Cameron. 16 personnes ont été tuées lorsque l'autocar de l'équipe des Broncos de Humboldt est entré en collision avec un camion semi-remorque le 6 avril au nord de Teesdale, en Saskatchewan. George Leonard, un dresseur canin au MSAR, une entreprise de dressage de chiens d'assistance, gérée par un groupe de Premières Nations basé au Manitoba, a dressé le chien destiné à Grayson Cameron. Celui qui a formé des chiens pour des anciens combattants, des policiers et des personnes ayant subi de la torture, dit que les chiens savent reconnaître les symptômes de l'anxiété et travaillent à les désamorcer grâce à des marques d'affection. Le dresseur, qui souffre aussi de stress post-traumatique, dit que le chien saura assurément aider le joueur qui a survécu à l'accident dans sa récupération. Chase et les 2 autres chiens offriront un appui constant aux joueurs. le journal Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, c'est Richard Landry qui signe un article intitulé « L'arrivée de Joseph et Marie-Joseph Dugas en Clare est représentée devant le public et le conseil municipal de Clare, C-L-A-R-E ». Dans le cadre des festivités du 250e anniversaire de Clare, une scénette présentée devant le conseil municipal de Clare et le public le mercredi 5 septembre dernier a permis de recréer l'arrivée de Joseph et de Marie-Joseph Robichaud Dugas en Clare en 1768. La présentation a été faite avant la réunion du conseil. Il s'agissait d'une commémoration de l'arrivée de la première famille dans la région. La pièce a été rédigée par Anne Leblanc, qui avait aussi préparé une scénette lors du dévoilement du serment d'allégeance pour lancer les célébrations du 250e anniversaire le 17 janvier dernier. La pièce relate la présence de Joseph Dugas à Louisbourg en 1758 et à Restigouche en 1759, où il a rencontré Marie-Joseph. En 1764, à Port-Royal, Dugas a épousé Marie-Joseph devant les parents de celle-ci, en promettant de l'aimer et de l'honorer, et ce, en l'absence d'un prêtre, et en promettant de faire bénir le mariage par un prêtre dans l'avenir. La famille, Joseph, Marie-Joseph et leur fille Isabelle, est arrivée à Lens des Leblanc, en Clare, le 5 septembre 1768. Il fallait monter un abri. Ils se sont considérés chanceux. 20 jours plus tard, Marie-Joseph a donné naissance à un fils, le premier Acadien, né à la baie Sainte-Marie qu'elle a nommé Joseph Dugas. La pièce sera présentée au complet lors de la clôture des festivités du 250e anniversaire de la municipalité de Clare, le 12 octobre prochain. Il y aura aussi un spectacle avec, entre autres, le musicien Kenneth Saunier. Dans le Franco, le seul journal francophone en Alberta, coup de théâtre au Théâtre à Pic, c'est une nouvelle qui est sortie hier, écrite par Fouad Secker. Le Théâtre à Pic, le TAP ou le TAP, a annoncé le 10 septembre qu'il prenait une année sabbatique. La programmation théâtrale sera donc suspendue durant toute cette période. Après une fin de saison mouvementée, ses principaux représentants ont décidé de s'accorder une période de réflexion afin de travailler au réalignement stratégique de l'organisme. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Confucius. C'est pour ne pas tomber dans les travers de cette célèbre maxime que la première page du site Internet du Théâtre à Pic a décidé de se retirer des planches durant une année. La décision fut prise en juillet par le conseil d'administration en poste lors de son assemblée générale extraordinaire. Cette décision s'explique par un essoufflement des bénévoles qui veulent s'impliquer au niveau du conseil d'administration et une saison mouvementée, au dire de Marcia Mayou, cofondatrice et présidente qui reprend les rênes de l'organisme. Le conseil ne pensait pas qu'il pouvait trouver des personnes qui voudraient se réimpliquer. C'est pour ça que je me suis réembarquée, dit celle qui croit dur comme fer au théâtre à Pic. Dans le journal La Voix du Nord, « Quand la maladie devient le centre d'une vie », c'est écrit par Julien Cahuillette et c'est sorti le 12 septembre. Sudbury, même si l'objectif a été atteint dans la campagne GoFundMe à son nom, Véronique Charbonneau n'en est pas à la fin de son combat contre la douleur chronique. « Nous avons eu la chance de la contacter lors d'une journée où elle se sentait plus en forme, mais comme elle l'explique, en arriver à ce niveau est un calcul de tous les instants. » La francophone de 26 ans souffre d'une série de conditions auto-immunes et dégénératives depuis l'âge d'environ 11 ans et pour lesquelles elle cherche encore la ou les sources. Les symptômes incluent de l'arthrite inflammatoire, des maux de tête, de la fatigue, irritation des yeux, des troubles du sommeil, des troubles digestifs comme des nausées, du reflux gastrique ou des allergies, et la liste continue. Il faut ajouter à cela les effets secondaires des médicaments et la dépression causée par le fardeau de sa condition sur sa vie quotidienne. Toutes ces conditions font qu'elle ressent constamment de la douleur, même si l'intensité peut changer d'une journée à l'autre. La maladie devient le centre de ta vie. Tout ce que tu fais est en fonction de la maladie. Ma journée, c'est une thérapie juste pour que je me sente assez bien pour passer à travers la journée. Une fois que j'ai géré la douleur et les problèmes, s'il me reste de l'énergie, là, je peux me consacrer à autre chose. Mais c'est la priorité. Sinon, tu n'as plus le goût de vivre, raconte-t-elle. Si on me voit, c'est parce que je vais bien. Quand on ne me voit pas, c'est que je suis cachée à la maison. Mais même quand ça ne va pas si bien, on devient vraiment bon à le cacher. Elle compare un peu le combat pour la reconnaissance des maladies chroniques à celui qui se poursuit pour les maladies mentales. Elle croit qu'il faut changer les mentalités pour que l'on cesse de croire que les personnes atteintes exagèrent ce qu'elles vivent et ressentent. Elle n'a pas l'intention de revoir à la hausse l'objectif de 7 500 $ de la campagne de sociofinancement, mais les dons supplémentaires restent les bienvenus, puisqu'elle a développé de nouveaux problèmes au cours de l'été qui vont me coûter plus d'argent que prévu. Au début de l'été, elle s'attendait à devoir dépenser 10 000 $, ce sera plutôt environ 20 000 $. Elle a récemment fait des tests dans une clinique à Sudbury, puis aux États-Unis afin de tenter de découvrir le déclencheur de sa condition. « Il faut que je trouve un expert du microbiome qui voudrait étudier mes résultats et peut-être me dire si on peut faire quelque chose ou non. » Elle regarde de ce côté parce que mes premiers problèmes chroniques touchaient mes intestins et mon système digestif. De là, ça s'est littéralement répandu à travers le corps. Et le gouvernement du Canada appuie la candidature des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Calgary 2026. La tenue des rencontres sportives d'envergure comme les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver contribue à appuyer nos athlètes, nos communautés et notre économie. Elles dynamisent notre pays, alimenté par la puissance du sport, et deviennent une source d'inspiration pour toute la population canadienne. C'est pourquoi, comme nous l'avons annoncé en mars 2018, notre gouvernement appuie fermement la candidature des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Calgary 2026. Les Jeux de 2026 seront les 25e Jeux olympiques d'hiver et les 14e Jeux paralympiques d'hiver. Si la candidature de Calgary est retenue, la ville accueillera les Jeux paralympiques pour la toute première fois. C'est en 1992 à Albertville, en France, que les Jeux paralympiques ont eu lieu pour la première fois, au même endroit que les Jeux olympiques d'hiver. Vous écoutez le quotidien des quotidiens en ce 21 septembre 2018. C'est Hélène Denis qui vous accompagne encore une demi-heure. Restez avec nous. Dans un petit moment, il y aura la suite de l'émission, bien sûr, avec le segment culturel. We'll be right back.
À Canal M, on entendait les Beatles avec la pièce All You Need Is Love.
All You Need Is Love entre en cette journée internationale de la paix. Quand il y a de l'amour, habituellement il y a de la paix, quand l'amour est sain, évidemment. Et cette chanson, c'est un clin d'œil puisque Paul McCartney était au Centre Bell hier et j'essayais de trouver s'il avait chanté cette chanson. Elle est publiée, la liste des chansons qu'il a interprétées hier au Centre Bell. On peut lire toute cette liste dans la presse d'aujourd'hui, puisque Alain Brunet l'a publiée, en plus de faire son compte-rendu critique, comme Sylvain Cormier d'ailleurs. Et puis dans le Journal de Montréal, mais la chanson « All You Need Is Love » n'y paraît pas, mais elle est toujours très agréable à écouter. Et il fait l'unanimité, ce monsieur McCartney, qu'on appelle aussi Maca. Du McCartney à son meilleur dans le Journal de Montréal, c'est une véritable classe de maître que le légendaire Paul McCartney a donnée à son public montréalais hier soir au Centre Bell pour son premier concert en 7 ans dans la métropole. Paul McCartney a-t-il vraiment fêté ses 76 ans en juin dernier? L'ancien Beatle n'accuse aucunement le poids des années. 3 jours après avoir enflammé le Centre Vidéotron à Québec, il a remis ça avec un autre concert extrêmement généreux d'environ 3 heures et incluant près d'une quarantaine de chansons. « Good evening, Montréal »,« Bonsoir, Montréal » a lancé Maca. Aux environs de 20h15, je crois que nous aurons un party ici ce soir. Nous jouerons quelques vieilles chansons, des nouvelles et d'autres entre les deux. De façon émouvante, écrit Raphaël Gendron-Martin dans le Journal de Montréal, les spectateurs ont reçu une sorte de leçon d'histoire des 60 dernières années avec des pièces des Beatles, 21 au programme hier, des Wings, 7 pièces et de la carrière solo de McCartney. Il est pratiquement impossible de repartir déçu d'un concert de Paul McCartney. Le chanteur de Liverpool sait exactement ce que le public veut entendre et il le lui sert avec générosité et un plaisir évident. Chronique cinéma dans la presse, une histoire d'été. Alors, c'est Marc-André Lucier qui fait sa critique de la disparition des Lucioles. La tonalité de cette nouvelle offrande de Sébastien Pilote est, il est vrai, différente de celle qu'on retrouvait dans ses précédents films, même si le réalisateur du Vendeur et du Démantèlement n'effectue quand même pas un virage radical. On sent toutefois sa volonté d'emprunter une démarche plus ludique en utilisant des effets propres au code classique du cinéma, notamment sur le plan musical. quand Léonie, formidable car elle tremblait, décide de monter spontanément dans un autobus sans destination précise, elle le fait au son d'une musique ample signée Philippe Gros, Bro, qui rappelle même les films de Jacques Demy. Jacques Demy, on se souvient, hein, c'est lui qui est derrière les parapluies de Cherbourg, mais c'est pas lui qui a composé la musique, c'est Michel Legrand. L'humour diffus émanant de plusieurs séquences évoque par ailleurs le cinéma de Stéphane Lafleur par moment. Le réalisateur de Tudor, Nicole, signe d'ailleurs le montage de La disparition des Lucioles. Au cœur de l'histoire, une adolescente de 17 ans qui vit dans une petite ville qu'elle souhaiterait quitter au plus vite. Dès le départ, le cinéaste se concentre sur le malaise du personnage en orchestrant une scène de fête d'anniversaire au restaurant, où la jeune fille se retrouve en compagnie de 4 adultes, parmi lesquels sa mère, Marie-France Turcotte, et le conjoint de cette dernière, François Papineau. Autant dire deux planètes générationnelles qui s'éloignent l'une de l'autre de plus en plus. D'autant que Léonie déteste son beau-père, un animateur de radio populiste dont le discours anti-syndical tapageur serait à l'origine de l'exil de son père, Luc Picard, ancien président du syndicat d'une usine qui a dû fermer ses portes. Sébastien Pilote s'attarde ainsi à dessiner le portrait d'une jeune femme qui voit la vie avec des yeux de serpent, fatiguée d'être tout le temps fâchée et pleine de haine. Évidemment, le personnage n'est pas modulé sur cette seule note. Sébastien Pilote, qui est aussi l'auteur du scénario, met au centre de son histoire la rencontre déterminante entre Léonie et Steve, Pierre-Luc Briand, un musicien plus âgé, deux êtres qui ne pourraient avoir des visions plus différentes de la vie. Ce dernier sort d'ailleurs rarement du sous-sol de la maison que possède sa mère, où il donne des cours de guitare et s'adonne aussi parfois à faire de l'air drum au son d'une pièce de Rush. Léonie décrochant pour l'été un travail de préposé à l'entretien d'un terrain de baseball, elle offre ainsi l'occasion à son nouvel ami de livrer un solo de guitare électrique au beau milieu du terrain sans public, ou presque. L'amorce d'une histoire sentimentale est vite neutralisée par un simple signe de tête de la part de Léonie. Alors, Marc-André Lucier accorde 3 étoiles et demie sur 5 à cette comédie dramatique de Sébastien Pilote. Avis aux fans de Céline Dion, hier, sur son compte Instagram, la diva de la pop a publié 2 photos d'elle en studio en pleine séance d'enregistrement accompagnée de ce court message « De retour en studio et emballée d'enregistrer de nouvelles chansons ». Le dernier album de chansons originales de Céline Dion, « Encore un soir », date de 2016, tandis que son plus récent album en anglais, « Love Me Back to Life », remonte à 2013. La chanteuse sera de retour au Caesars Palace de Las Vegas, le 30 octobre.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le feu sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisser tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de sa voix s'étouffe dans les rires des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Trio Arcadian nous reprenait la foule.
Alors, j'espère qu'il y a foule, puisque en ce 21 septembre, c'est une journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes et elles ont besoin d'appui. Alors que les marcheurs et marcheuses du Frappru, parti d'Ottawa le 2 septembre, ont déjà parcouru plus de 350 km de leur parcours en direction de Québec, la grande marche de ville en village pour le droit au logement au 20e jour, mettra en lumière les dénis de droit au logement vécus par les femmes à l'occasion d'une journée thématique co-organisée par le Frappru et 7 regroupements défendant les droits des femmes. En cette 37e journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes et alors que les CALAC lancent la campagne, CALAC qui signifie Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la campagne s'intitule « Ça me regarde », qui encourage la population à s'engager contre les agressions à caractère sexuel. Cette journée thématique apparaît comme une occasion de se mobiliser pour les droits des femmes. Alors aujourd'hui, au programme, ça a commencé à 9h15, avec un départ de Masquinongé, 11h30, arrivée, rassemblement et activité à Louisville, 13h, une conférence de presse conjointe pour la journée thématique « Femmes et logements ». La conférence se tiendra derrière le centre communautaire de Louisville et à 16h45, arrivée au presbytère de Yamachiche. Alors ça, c'est pour la journée thématique Femmes et logements. Alors voilà, puis pour le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, eh bien, on salue cette 37e journée d'action. Quelques suggestions de sortie, puisque c'est la fin de semaine. C'est en fin de semaine, donc, que les marathoniens nous impressionneront. Samedi, c'est demain, à 8 heures, le départ du 5 km se fera au parterre du quartier des spectacles. Celui du 10 km aura lieu à l'intersection de Maisonneuve et Clark. Le petit marathon partira à 11h30 de la place des festivals sur la rue Jeanne-Mance. Il y aura des DJ qui vont animer les lieux. Un spectacle de Grégory Charles et ses amis à 20 heures viendra clôturer la journée. Dimanche à 7h10, la cérémonie d'ouverture aura lieu à l'intersection de René Lévesque et Saint-Urbain. Et les départs du demi-marathon et du marathon auront lieu à 7h30. Maurice, est-ce que vous faites le demi-marathon ou le marathon?
dans quelques années.
Dans quelques années. Alors, vous continuez de vous entraîner. Consultez le site pour plus d'informations et une carte des rues fermées, le site rockrunandroll.com. Ensuite, dimanche, de 14h à 18h au parc Fleury-Mesplet, rue Bonneau et de la commune Est ou à l'accueil Bonneau, s'il pleut, on lancera le mois du miel de Bonneau. Ainsi, on pourra goûter au miel fabriqué par les apprentis apiculteurs de l'accueil Bonneau. Il s'agit d'une initiative qui réunit plusieurs intervenants, dont Maître Yves Ménard, l'épicier métro et l'entreprise d'agriculture urbaine Alvéole. En octobre, 6 artisans montréalais transformeront en création culinaire le miel récolté dans les 72 ruches du projet. Il y a le Festival international de la littérature. D'ailleurs, lundi soir, il y a notre souper... comment ça s'appelle? Le souper littéraire?
Au Noir.
Au restaurant Au Noir, c'est ça. Jusqu'au 30 septembre, là, je parle du festival en tant que tel... On a plusieurs rencontres, des performances littéraires. Les lettres catalanes sont à l'honneur cette année. On pourra donc assister à plusieurs événements catalans, dont un concert de rumba catalane. Et pour revenir au spectacle littéraire à l'aveugle, les gens seront plongés dans le noir et vont entendre des lecteurs, lectrices raconter toutes sortes d'histoires tirées de romans, des romans aussi qui parlent aussi de la réalité des aveugles. Et c'est animé par notre collègue Clotilde Seille. C'est donc lundi le 24 septembre. Il reste encore quelques billets. Vous pouvez communiquer avec Vues et Voix pour vous inscrire à cette soirée tout à fait originale qui nous montre, nous fait prendre conscience de la réalité des gens qui vivent sans voir. Le Fil et les enfants, ça c'est samedi à la Maison au Théâtre, invite les enfants de 6 à 12 ans et leurs familles pour une journée spéciale axée sur l'écriture. Les jeunes pourront vivre un processus créatif unique et convivial en s'initiant à l'écriture théâtrale. Des artistes reconnus et inspirants les guideront, le tout sera orchestré par l'écrivain Simon Boulris. Les moins de 6 ans pourront écouter de belles histoires. Vous pouvez avoir plus d'informations à maisontheatre.com. Et vendredi, dans la nuit, la Ronde propose une nuit blanche de musique et de manège aux 18 ans et plus. Parfum de cuisine. Venez, j'ai préparé un clafoutis. Le ton est donné, la bonne chère, un thème cher à Christine Brouillet n'est jamais bien loin dans une discussion avec elle. Même pour ses polars, il fait toujours partie des ingrédients. Son plus récent livre, Chambre 1002, une histoire d'amitié entre un groupe de femmes de différents horizons, est également assaisonné d'une enquête policière. Autre sujet de prédilection pour la prolifique romancière, c'est Diane Précourt dans Le Devoir qui l'a rencontrée. La cuisine s'introduit dans tous mes livres, lance-t-elle, assise à la grande table de la terrasse où elle s'installe pour écrire l'été et où on imagine aisément les longues soirées autour d'un repas avec des amis. Le lendemain d'un souper en leur compagnie, je flotte encore sur un petit nuage. L'amitié est très importante pour moi. J'y trouve un réconfort, ça me ressource. Depuis 20 ans qu'elle avait envie d'écrire un roman sur l'amitié, mais le scénario n'y était pas. Elle le trouvera à l'occasion de quelques visites à l'hôpital. Là où, entre autres choses, on tente le tout pour le tout afin de réveiller un proche dans le coma. On n'a pas encore percé le mystère du niveau de conscience d'un comateux, dit-elle, ni le degré d'activité de ses sens. Certains vont lui apporter de la musique et je me suis dit que ce n'est pas la musique qui me ramènerait à la vie, mais les parfums, l'odorat, à la fois primaire et sophistiqué. C'est omniprésent chez moi. Le soir, par exemple, je pense au thé que je vais boire le lendemain, où je prends plaisir à frotter les feuilles d'un plant de tomate, à sentir la fourrure de ma chatte. Je suis constamment sollicitée. Des sollicitations qui la nourrissent. Dans Chambre 1002, ce sera donc par les odeurs que ses amis tenteront de faire sortir Hélène du coma où elle s'est enfoncée à la suite d'un accident de voiture. D'où lui vient donc cette irrésistible attirance envers la gastronomie? De l'amour d'un garçon, répond Christine Brouillette. J'ai toujours été gourmande, mais je ne cuisinais pas vraiment. Lui adorait la pâtisserie, alors je me suis mise au Paris-Brest, au Forêt-Noire, au Saint-Honoré. Il n'y avait rien à mon épreuve, j'étais très motivée. C'est ce qui m'a donné le goût de cuisiner. Ça me détend, me sort d'un univers de grande concentration, où le cerveau fonctionne à plein régime. Christine Brouillette carbure à l'écriture 25 heures par semaine et 30 à la lecture. Si dans Chambre 1002, les personnages bien campés sont tous plus sympathiques les uns que les autres, l'auteur de Polar n'est jamais très loin non plus. Alors, pour plus de détails, si ça vous tente, le livre est maintenant disponible aux éditions Druide, Chambre 1002. Voilà, ça complète la semaine déjà et c'est la fin de l'été aujourd'hui. Donc, dernière journée d'été. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera l'automne et que nous réserve l'automne, ben, on se le dira la dernière journée. Mais en tout cas, paraît-il que ce sera un automne... quoi? Un vrai automne avec de la pluie, du temps froid, mais aussi de belles couleurs et de belles chansons. Je vous laisse donc avec la lune d'automne, Michel Rivard. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis, bon week-end à tous et à lundi.
Septembre rouge aux mille draps blancs, le vent les bouge, moi j'ai 8 ans, rue Marquette. À la radio de mes parents, j'entends chanter le fou chantant l'âme des poètes. Le gros Raymond m'appelle dehors, viens jouer dans le cours, j'ai des pétards. La ruelle s'étire à l'horizon. On va raser les murs, on va sauter les clôtures jusqu'au Japon. Et la lune brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y'a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. L'odeur d'encens dans les églises, comme au trottoir des années grises, mais pas perdue. Avec au cœur la graffinure de la plus belle, de la plus pure, m'a fait des rues. Le gros Raymond qui lâche l'école, ma ligne de vie qui fait la folle, frontière fragile entre l'homme et l'amour. J'ai mal à mes 16 ans, j'ai tous les âges en même temps, et je t'attends. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y'a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. J'aime pas la nostalgie, c'est une maîtresse inassouvie aux yeux trop bleus. Je t'emmène en ville à pied, je te fais présent de mon passé si t'en veux. Du haut de la croix du Mont-Royal, je te confie mon idéal et tous mes romans fleuves à venir. Enfants, joueurs de tour, et mes automnes et mes amours à finir. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Dans le nord de la ville, d'une ville du nord, y'a un ticu qui cherche encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne